la famille de Leila, en me grattant furieusement, persuadé que la laine ou le coton de mon matelas débordait de puces et autres bestioles enragées, promptes à me dévorer les guiboles. J'entendais Bilger ronfler en sourdine. Dehors, un mât ou une drisse cliquetait dans la brise. On aurait pu se croire dans un voilier au mouillage. J'ai fini par m'endormir. C'est une lune ronde, au ras du sol, peu avant l'aurore qui m'a réveillé, alors qu'on ouvrait la tente sur l'immensité doucement bleutée. L'ombre d'une femme soulevait le pan de tissu et le parfum du désert, terre sèche, cendres, animaux, tourbillonnait autour de moi, dans le caquettement encore discret des poules qui glanaient, horribles monstres furtifs dans la pénombre, les miettes de pain de notre dîner ou les insectes nocturnes que notre chaleur avait attirés. Puis l'aurore a passé ses doigts de rose au travers de la brume, bousculant la lune, et tout a paru s'animer de concert. Le coq a chanté, le vieux chèque a chassé les gallinacés trop aventureux d'un revers de couverture, le colporteur s'est levé, a passé le manteau dans lequel il s'était enroulé le soir autour de ses épaules et est sorti. Seul Bilger dormait toujours. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il était 5 heures du matin. Je me suis levé à mon tour. Les femmes s'affairaient devant la tente. Elles m'ont adressé un petit signe de la main. Le colporteur faisait ses ablutions parcimonieusement, avec une aiguière en plastique bleu. Un des objets qu'il vendait, imaginais-je. À part les légers rougeoiements du ciel à l'est, la nuit était toujours profonde et glacée. Le chien dormait encore, en boule contre la paroi extérieure. Je me demandais si j'allais apercevoir Sarah sortir elle aussi. Elle dormait peut-être, comme le chien, comme Bilger. Je suis resté là, à regarder le ciel s'ouvrir, avec dans la tête l'oratorio de Félicien David, le premier à avoir rendu en musique la simplicité terrifiante du désert. S'il était déjà 5 heures, je pourrais me lever, épuisé comme chaque matin, vaincu par la nuit. Impossible d'échapper à ces souvenirs de Sarah. Je me demande s'il vaut mieux les chasser ou m'abandonner tout à fait au désir et à la réminiscence. Je suis paralysé, assis dans mon lit. Depuis combien de temps fixais-je la bibliothèque, immobile, la tête ailleurs, la main toujours accrochée à l'interrupteur, un marmot qui serre son hochet? Quelle heure est-il? Le réveil est la canne de l'insomniaque. Je devrais m'acheter un réveil mosqué comme ceux de Bilger à Damas, mosqué de Médine ou de Jérusalem, en plastique doré, avec une petite boussole incorporée pour la direction de la prière. Voilà la supériorité du musulman sur le chrétien. En Allemagne, on vous impose des évangiles au creux du tiroir de la table de nuit. Dans les hôtels musulmans, on vous colle une petite boussole contre le bois du lit, ou on vous dessine une rose des vents marquant la direction de la Mecque sur le bureau. Boussole et rose des vents qui peuvent servir certes à localiser la péninsule arabique, mais aussi, si le cœur vous en dit, Rome, Vienne ou Moscou. On n'est jamais perdu dans ces contrées. J'ai même vu des tapis de prière avec une petite boussole intégrée au tissage. Tapis qu'on avait immédiatement envie de faire voler, puisqu'ils étaient ainsi préparés pour la navigation aérienne. Un jardin dans les nuages, avec, comme le tapis de Salomon de la légende juive, un dais de colombe pour se protéger du soleil. Il y aurait beaucoup à écrire sur le tapis volant. Sur ces belles illustrations, promptes à susciter la rêverie, de princes et de princesses assis en tailleur, dans des costumes somptueux, au beau milieu d'un ciel de légende, rougeoyant à l'Occident, tapis qui doivent sans doute plus aux contes de Wilhelm Hauff qu'aux mille et une nuits proprement dites, plus aux costumes et aux décors de la Scheherazade des ballets russes qu'aux textes des auteurs arabes ou persans. Une fois encore, une construction conjointe, un travail complexe du temps où l'imaginaire se superpose à l'imaginaire, la création à la création.